Il est 6h.
De concurrents à partenaires, les groupes de médias TF1 et M6 vont fusionner, naissance programmée d'un nouveau géant dans le monde de la télé. Demain, retour entre autres des virées shopping, les commerces non alimentaires vont rouvrir dans les grandes surfaces. On se prépare très activement. Et puis vous le disiez Théo, Europe 1 vous aide aujourd'hui avec votre déclaration de revenus. Journée spéciale impôts et quelques clés déjà à la fin de ce journal.
À suivre le journal des sports de Cédric Chasseur et puis mon invité inattendu, on va rester dans le domaine du sport et vous verrez qu'on a beaucoup à apprendre de Roger Federer qui fait aujourd'hui son grand retour sur terre battue à 2 semaines de Roland-Garros. Bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est le mariage arrangé de l'année. TF1 et M6, les deux poids lourds du paysage audiovisuel français, vont s'associer pour former un géant de la télé. À eux deux, cela représentera pas loin de 40% de part d'audience. C'est une révolution dans le monde des médias. 30% pour TF1 dans ce nouvel ensemble, 16% pour M6 et le reste sera coté en bourse. Emmanuel Duteil, bonjour.
Bonjour.
Un groupe de médias, ce n'est pas que des émissions de télé, c'est aussi un marché publicitaire, un milieu très concurrentiel. On imagine évidemment que cette fusion ne se fera pas en un claquement de doigts.
Alors les signatures sont encore fraîches, les contrats ont été signés hier soir au terme d'un week-end très actif selon un des participants. Sur le papier, c'est le deal du siècle dans le monde des médias en France. À l'heure de la concurrence de Netflix et d'Amazon, c'est la naissance d'un groupe gigantesque présent sur tous les marchés. La radio avec RTL, la production de séries, 10 chaînes gratuites dont TF1, M6, TMC ou encore Gulli, des sites internet comme Doctissimo, des sites de replay, de VOD, etc. etc. Mais c'est là que les problèmes commencent. La loi est très claire, il n'est pas possible pour un même groupe d'avoir plus de 7 chaînes. Il va donc falloir en vendre 3. Officiellement, le choix n'est pas encore fait. Le nouvel ensemble va représenter par ailleurs un tiers de part d'audience télé et les 3/4 du marché publicitaire. Là aussi, ça devrait faire tiquer. L'autorité de la concurrence doit se décider à l'été 2022. Si cette opération historique devait être finalisée, le rapprochement aurait lieu fin 2022. Et c'est Nicolas de Taverneau, l'actuel patron de M6, qui prendrait la tête de l'ensemble.
Merci Emmanuel Duteil pour vos précisions pour Europe 1.
J-1, Lénaïck Monnier, la vie reprend son cours presque normal. Demain, après 7 mois d'attente, on va retrouver des amis pour boire un verre ou pouvoir aller au concert.
Une vie sociale qui revient, mais jusqu'à 21h seulement, hein, puisque le couvre-feu est repoussé de 2h. En tout cas, aujourd'hui, les commerçants s'affairent pour régler les derniers détails. Fleurir les terrasses pour certains, organiser l'ouverture des grandes surfaces pour d'autres. Direction justement Toulouse avec Benjamin Peter, où une galerie marchande s'est transformée en vraie fourmilière ces derniers jours.
On commençait à avoir tout le temps les mêmes têtes, donc ça va nous faire du bien, je pense, à tous. Juste de voir des gens, déjà.
C'est l'heure des dernières finitions dans cette enseigne de sport. Anissa replace les rideaux des cabines d'essayage et Jessica, sa collègue, fixe les bouteilles de gel hydroalcoolique.
Pour que tout soit opérationnel pour les conditions sanitaires, moi j'ai hâte de pouvoir réconseiller, surtout sur le sport, ou y avoir matière à échanger, à conseiller. Enfin, on va se sentir utile, ouais.
Depuis la fermeture, il a fallu changer toute la collection. Jacques Coppol, le gérant de ce magasin Inter Sport s'attend à recevoir du monde dès mercredi.
La zone saisonnière va être très très importante. Donc avec les tongs et toute la partie maillot de plage, tout ce qui est lié à la saison. Ces deux univers-là effectivement vont générer du flux.
Dans les 40 boutiques de cette galerie, chacun se prépare et le directeur du centre commercial, Quentin Lagarrigue, a mis en place un tout nouveau protocole.
On a un fléchage pour indiquer aux clients des sens de circulation. On a des bandes de distanciation en cas de trop nombreux clients devant les boutiques et on a un outil de comptage en temps réel. Donc en temps réel, on sait combien de clients sont présents sur le centre pour justement respecter cette jauge.
Et cette réouverture pourrait bien être l'occasion aussi de faire de bonnes affaires puisque beaucoup de commerçants affichent des prix cassés sur leurs invendus des derniers mois. À Toulouse, Benjamin Peter, Europe 1.
Et des réouvertures qui s'effectuent alors que la situation sanitaire s'améliore. Le total d'hospitalisation est au plus bas depuis 6 mois. D'où cette question ce matin. Et le masque dans tout ça, combien de temps et dans quelles circonstances faudra-t-il encore le porter? Olivier Véran a répondu hier soir chez nos confrères de BFM TV.
Vous avez la situation, vous êtes dans un lieu clos, fermé, avec des gens qui ne sont pas forcément vaccinés. Où là, le port du masque, on va devoir le garder pendant un petit moment. Vous avez la situation où vous êtes entre vous, ou en famille, au milieu familial, ou avec quelques amis à l'intérieur d'un lieu privé, où tout le monde est vacciné et protégé, auquel cas, le masque n'est pas aussi indispensable. Si vous êtes seul ou quelques-uns dans un très grand espace, très aéré, comme une plage, une montagne, une forêt, un parc, une rue déserte, où là, on doit pouvoir être rapidement amener à pouvoir revenir sur l'obligation de port de masque dans cette situation.
Ce n'est donc pas complètement terminé, évidemment, on a bien compris, le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Pendant ce temps, Léna Ekmonier, au Proche-Orient, l'intensité du conflit ne faiblit pas.
Malgré les appels incessants de la communauté internationale à un cessez-le-feu, y compris l'appel de Joe Biden, l'ONU va se réunir encore une fois aujourd'hui à huis clos pour évoquer la situation à Gaza. Depuis 8 jours, les bombes israéliennes répondent aux roquettes du Hamas et vice-versa. On compte plus de 200 morts depuis le début des affrontements. Plusieurs roquettes de nouveau ont été tirées hier soir depuis le sud du Liban en direction d'Israël qui a répliqué par des tirs d'artillerie.
Europe 1. Il est 6h05, vous restez avec nous. Europe 1 vous aide ce matin, journée spéciale impôts. On vous aide avec votre déclaration. C'est dans la suite du journal, à tout de suite.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Il est 6h07 sur Europe 1, la suite de votre journal Léna Ekmonier. Chaque année, c'est la même chose, il faut remplir sa déclaration de revenus.
Mais on n'a pas le choix, il faut se plonger dedans, mais parfois c'est assez compliqué. Par exemple, si vous avez investi cette année dans la crypto-monnaie, est-ce que vous savez vraiment comment la déclarer? Eh bien, si ce n'est pas le cas, c'est Maud Descamps qui vous donne les clés.
Pour déclarer vos crypto-monnaies, il faudra vous munir d'un formulaire spécifique, le formulaire 2086, que vous allez remplir en même temps que votre déclaration de revenus. Mais attention, vous ne déclarez pas le montant de crypto-monnaies que vous possédez, même si vous en avez beaucoup. Vous déclarez uniquement les gains que vous avez réalisés, comme le détaille Pierre Morisot, fondateur du logiciel fiscal de crypto-monnaie, Waltio.
Le fait générateur de l'impôt, ça va être quand on va convertir une crypto-monnaie contre une devise monétaire d'État, euros ou dollars, ou quand on va acheter un bien ou service réel, c'est-à-dire quelque chose avec des crypto-monnaies. On va payer avec des crypto-monnaies.
Le montant obtenu doit ensuite être reporté sur votre déclaration d'ensemble. La plus-value, elle, sera soumise à une taxation globale de 30%.
Et pour toute autre question sur le chômage partiel, les aides perçues pendant le confinement, mon invité vient nous décrypter toutes les nouveautés. Le patron des experts comptables d'Île-de-France sera avec nous en direct à 6h40. Et toute la journée, des experts comptables vous répondent aussi au 3921 sur europe1.fr.
Et en tout cas, Joe Biden et son épouse, eux, ont sans doute été conseillés. Le président a publié en tout cas sa déclaration fiscale, tranchant évidemment avec son prédécesseur Donald Trump. Le couple a déclaré avoir gagné un peu plus de 600 000 dollars en 2020. La vice-présidente Kamala Harris et son époux, eux, font état de revenus plus importants, 1,7 million quasiment.
Enfin, cette question, Léna Ekmonier, travailler trop est-il mauvais pour la santé?
Eh bien, si c'est au-delà de 55 heures par semaine, l'OMS estime que oui. L'Organisation mondiale de la santé a publié hier une longue étude sur le sujet que nous décrit Virginie Salmen.
Les scientifiques ont comparé des gens qui travaillent plus de 55 heures par semaine à ceux qui ne vont pas au-delà des 40 heures. Résultat, le risque d'AVC augmente de 35% pour les travailleurs dont les semaines s'allongent, femmes et hommes, tous métiers confondus, et le risque d'infarctus de 17%. En pleine pandémie, c'est le moment de prendre des mesures pour structurer le télétravail qui s'est généralisé, estime la directrice du département santé à l'OMS, le docteur Maria Nera.
Il faudrait que le télétravail soit bien réglé, qu'on arrive à dissocier la vie professionnelle et la vie privée et qu'on ne fasse pas comme on a fait jusqu'à présent, qu'on a des estimations comme quoi on a augmenté au moins de 10% au niveau professionnel sans avoir une vraie séparation entre la vie privée et la vie professionnelle.
Les experts de l'OMS sont d'autant plus inquiets que le nombre de personnes qui dépassent les 55 heures par semaine est en augmentation. Elles représentent désormais près de 10% de la population mondiale.
Les précisions de Virginie Salmen pour Europe 1.
Merci, c'était le journal de Léna Ekmonier. Il est 6h10.